Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir toujours dans cette émission Club de la Presse. Et ça fait plaisir de vous avoir très nombreux au bout des ondes de la 93.5. Merci d'être là. Fong Yassingbé, le président togolais, pourrait bientôt intervenir dans la facilitation du conflit persistant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, RDC. Le bureau de la conférence de l'Union africaine a réuni en session virtuelle le samedi dernier a en effet approuvé la proposition du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, actuel président en exercice de l'Union, de nommer le chef de l'État togolais pour assumer le rôle de médiateur. Que vous inspire le choix porté par le président togolais pour la médiation dans le conflit à l'est de la RDC? Nous parlerons du sujet dans cette émission. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays. Le Togo est aussi au-delà de nos frontières dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 7 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vito Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouaji à Dabaron. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi, et vous comprenez que l'équipe, à l'heure de lundi, se met déjà en place. Jacques Dzakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à nos auditeurs et auditrices de Canal FM. Je salue également les techniciens qui sont de l'autre côté. Et profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente semaine à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement, comme on le dit souvent, ceux qui sont malades, qui sont sur les lits des hôpitaux, ceux qui sont au bord des taxis, des bureaux, et partout, sur toute l'étendue du territoire et dans le monde entier, la diaspora togolaise, nous profitons de l'occasion pour leur saluer. Et Pascal, excuse-moi, je voulais lancer ce matin un appel à notre président, le président Fong Yassingbé, d'essayer de voir le cas de la caisse de retraite du Togo. C'est-à-dire que quand vous voyez nos compatriotes, vous savez que leur ancien siège avait eu des problèmes, le siège s'est écroulé, on a essayé de les repartir, certains sont allés au niveau du CASEF.
Ça, c'est au niveau de Clicamé, non?
Voilà. Et d'autres sont allés au niveau également je crois que c'est au niveau de Didogo, mais Djidjolé. Mm. C'est là-bas qu'on a reparti certains. Pascal, j'ai fait un tour la semaine passée. C'est quand même triste de voir des compatriotes sur une chambre de combien? Peut-être un mètre carré. Vous allez voir peut-être 10 personnes. C'est pas bon à voir. C'est pas du tout bon à voir. Je parle du personnel, de la caisse de retraite.
D'accord,
parce que,
le personnel.
Ah oui, après l'écoulement de la direction, on a eu à aller repartir vers le CASEF, d'autres sont vers Djidjolé. Et je vous dis que, Pascal, c'est pas ça. Et vous allez voir que la plupart côtoient souvent les souris, les cafards. C'est pas bien. Ça, j'interpelle solennellement le chef de l'État pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'ils ont un siège qui est en construction qui, depuis un certain temps, les travaux n'évoluent pas. On a vu que bon, le bâtiment est là, mais on n'arrive pas à équiper le bâtiment et nos compatriotes vraiment souffrent Je ne vais pas donner, je ne vais pas rentrer dans certains détails sur ce que j'ai vu, entendu au niveau effectivement des compatriotes de la caisse de retraite qui souffrent au niveau du CASEF et de Djidjolé. Vraiment, je lance un appel vibrant au chef de l'État d'essayer de voir ce qui se passe. Parce que depuis un certain temps, on a constaté que le conseil d'administration, qui est le ministre des Finances qui est en tête, mais les choses ne bougent pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Les choses ne bougent pas du tout. Et vraiment, voir nos compatriotes dans cet état au niveau du CASEF et de vraiment Djidjolé, ça fait pitié. Donc, que le chef de l'État fasse quelque chose pour que nos compatriotes puissent occuper le bâtiment. S'il n'y avait pas le bâtiment Pascal, là on peut dire, mais bon, écoutez, ils vont construire. Mais le bâtiment est construit. Qu'est-ce qui reste? Équiper le bâtiment. Et s'il y a par exemple peut-être un problème, prenez une partie et essayez d'équiper une partie et laissez les agents aller travailler, se mettre à l'aise. Parce que on ne peut pas être dans ces conditions-là et demander un rendement efficace à ces compatriotes-là qui sont dans le bureau. Pascal, allez, faites un tour. Si ce que je dis, si je mens, les autorités peuvent faire un tour. Ils peuvent envoyer des gens. Ils ont laissé des renseignements, peuvent faire un tour pour voir ce que j'ai dit, si c'est vrai ou faux. Vous allez voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes la travaillent à ce niveau. Plaise à Dieu que le chef de l'État fasse quelque chose pour libérer nos compatriotes, pour qu'ils puissent libérer leur énergie, pour travailler vraiment pour ce pourquoi ils ont été recrutés, ce pourquoi ils sont appelés.
Jacques, merci beaucoup. Hein. Je vous rassure que le message est passé et ce serait justement attendu par cet adressé à qui de droit. Et il y a toujours un effet quand même qui va accompagner cela parce que l'émission Club de la Presse est bien suivie et bien suivie même d'ailleurs dans les sphères lors de décision. Merci hein, d'avoir interpellé les uns et les autres alors sur cette question. J'allais dire Pépé, Gosson Kitomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je rends grâce à Dieu.
Et le week-end, vous l'avez bien passé?
Ben, hormis les petits couacs, nous rendons toujours grâce à Dieu parce que ce n'est pas évident que tous ceux qui ont posé la tête sur leurs oreilles hier nuit retrouvent le soleil ce matin. Juste pour dire que quand nous avons le souffle de vie, quelle que soit la situation, nous devons être reconnaissants envers le Créateur.
C'est important.
Je veux non pas répondre à la remarque de Jacques, mais faire comprendre que la culture de la peur, de la frilosité au Togo en général et dans les administrations publiques ne profite pas à la bonne gestion. En ce sens que, par exemple, l'information que Jacques vient de donner tout à l'heure, je serais un agent de la caisse de retraite que je chercherais à savoir officiellement. Malheureusement, il se trouve que ici, ceux qui sont dans le service public ont peur de demander à comprendre, à savoir. Et pourtant, c'est un droit absolu. Là où vous travaillez, il y a eu un incident, on vous a délogé pour aller ailleurs. Or, vous savez que votre bâtiment est en construction. Poliment, mais fermement, allez vers le responsable pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et depuis là, ouais, le bâtiment n'est pas réceptionné. Peut-être que c'est pour ça que moi, je ne serai jamais à l'aise dans les services publics parce que ma langue, je ne peux pas l'avoir en poche. Elle est faite pour être utilisée. Voilà.
Notre langue est faite pour être utilisée.
À bon escient. Pascal, tu te rappelles, il y a 8 jours, tu parlais de réforme à l'OTR.
Oui.
Nous avons fait des supputations, mais je m'étais abstenu de tout propos du moment que je n'ai pas encore sous les yeux le rapport d'audit. Nous avons quelque chose qui doit sortir probablement cette semaine à propos. Et il est question d'une période qui concerne l'audit. Et malheureusement, ou heureusement, c'est selon l'actuel commissaire général, sa période court depuis 2019 au moment où je parle. Seulement, l'audit est postérieur à sa période. C'est-à-dire que c'est sous les anciens Henri Gapéry et Kodjo Sevon ADG que l'audit a été commandité. Donc, en attendant que peut-être le tour de l'actuel arrive, Nous devons avoir l'esprit que l'audit dont on parle et qui donne lieu à des réformes concerne des anciens commissaires. C'est important à relever.
D'accord, merci. Je sais que il y a Didier qui sourit quand tu parlais hein, de cette question, bien sûr, à l'ordre de l'ETR. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio.
J'espère que vous allez bien.
Dieu fait grâce, on est debout, c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel, nous devons toujours remercier le bon Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde tout le temps. Puisque Gonson l'a dit tout de suite, la certitude n'est pas quand même quand on dort la veille et qu'on se dirait que mais oui, nous allons nous réveiller le lendemain. C'est une grâce.
C'est une grâce que d'être debout, c'est une grâce que de voir le soleil. Il a si bien dit, vous avez beau appartenir à la minorité, vous avez beau avoir des milliards, vous dormez le soir.
Mais pourquoi tu te tournais vers Gonson quand tu parlais de la minorité?
Mais puisque étant le conseiller virtuel du chef de l'État,
il est proche de la minorité, donc il n'est pas si garanti que malgré tout ce qu'on pourrait avoir dans la vie, et que quand on se couche le soir, on se réveille le matin. Il y a quelqu'un qui veille sur la vie, il y a quelqu'un qui détient la vie. Il y a quelqu'un qui protège la vie, c'est lui qui la redonne à qui il veut le matin. Et donc, il nous l'a donné ce matin encore pour une nouvelle semaine, nous le croyons et nous le remercions.
Cher confrère, merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques, nous démarrons cette émission avec ce sujet. On sait, le samedi dernier, c'est la reprise alors de l'opération Togo Propre. C'est vrai, cette opération qui se faisait partout au Togo pour l'assainissement et surtout l'assainissement alors du cadre de vie des Togolais a été entre-temps arrêté compte tenu alors de la maladie à coronavirus. Et finalement, le samedi dernier, ça a été repris. Et on pourrait dire que c'est une bonne chose, puisque notre cadre de vie doit être assaini, Jacques.
Une très bonne chose, Pascal. Mais il faut encore beaucoup de sensibilisation. Et vous savez, quand on parle d'un milieu propre, ce n'est pas d'abord la responsabilité du gouvernement, ce n'est pas la responsabilité de la mairie, mais c'est d'abord notre responsabilité. Parce que, Pascal, il faut qu'on puisse vivre dans un environnement sain. Ça, c'est d'abord nous. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous apprendre à balayer devant notre maison. Et puis, ce que j'ai remarqué le samedi passé, au moins pour une première fois, on a laissé nos soldats libres. Parce que quand on parlait de Togo Propre, c'est les soldats seuls qui sortaient. Vous prenez ceux d'Adido Gomet qui sont là sur la voie d'Adido Gomet et un peu partout, c'était eux. Mais aujourd'hui, samedi, on a remarqué quand même qu'il y a des civils qui sont sortis. Donc, il faut toujours continuer la sensibilisation. Il faut parler à nos compatriotes et que les compatriotes comprennent que ce qui se passe, ce n'est pas l'État, mais c'est nous. Si notre environnement est propre, nous serons également en bonne santé. Mais si l'environnement est sale, nous aurons également des problèmes. Donc je crois que la responsabilité d'abord nous incombe. Ce n'est pas d'abord à l'État, mais cela nous incombe à nous-mêmes. Donc je crois qu'avec ce que j'ai vu le samedi passé, et je crois que la mayonnaise a commencé par prendre. Il faut se départir aussi, Pascal, des jeux politiques. Si on se départit de ça, vous allez voir que nous, chacun sera libre quand on appelle quelqu'un de sortir. Les gens vont sortir. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que chaque arrondissement, vous allez voir tel maire est devant ceci, tel aussi est devant ça. Et finalement, avec les tambours et autres, je ne crois pas que quand on balaye, on a besoin des cascagnettes et des tambours pour balayer. On a besoin seulement des balais, des râteaux. C'est ce dont nous avons besoin. Donc, il faudrait qu'on puisse inculquer ça dans la tête, dans la mentalité des Togolais que nous sommes, que balayer devant soi, balayer pour que son pays soit propre, ce n'est pas une affaire politique, mais c'est une affaire de tout le monde. Donc, je crois qu'il faut qu'on puisse inculquer ça dans nos têtes. Et je ne sais pas si au niveau aujourd'hui de nos écoles, entre-temps, on nous avait enseigné ça, mais je ne sais pas si cela existe encore. Donc, essayer de revoir également ces curricula, déjà au niveau des écoles, apprendre également aux enfants comment mettre l'environnement effectivement propre. Il ne faut pas attendre que Godson ou bien Didier vient de me dire Jacques va balayer devant ta maison. Ça n'a pas de sens. Donc je crois que c'est une bonne chose, mais il faut pérenniser une fois encore la sensibilisation.
Merci Jacques. Oui, Godson, c'est vrai qu'entre-temps, le Togolais connu pour cela, c'est-à-dire, ça venait même de soi. C'est-à-dire, quand le Togolais se lève, on balaye enfin, sa devanture, on balaye même la devanture de l'autre. Mais à un moment donné, c'est comme si la pratique a quitté l'habitude alors du Togolais de telle enseigne que finalement, on a besoin plutôt alors de faire une sensibilisation.
Ben, une sensibilisation, oui, je suis d'accord. Mais dans quel sens? Parce que, par exemple, prendre la roue et désherber, ce n'est pas, à mon sens, pas encore la propreté. Non, l'herbe, ce n'est pas de la saleté. Mais quand on aura réussi à inculquer en chaque être, en chaque Togolais, le fait de ne plus jeter les déchets, détritus, sachets plastiques dans la rue n'aura pas besoin d'être balayée avant de demeurer propre. Autrement, ce serait comme un mythe de Sisyphe, si je me trompe.
Oui, le mythe de Sisyphe.
Reprend la même chose en permanence. Ça veut dire que...
Et que ça ne donne aucun résultat.
L'humain n'est pas intelligent. Quand on prend la période où Anazap s'occupait de la lagune, c'est des millions, pour ne pas dire des centaines de millions, qui ont été mobilisés. Mais aujourd'hui, quand tu descends, par exemple, la voie qui mène de Badago à Hankope, à un certain niveau, tu es obligé d'arrêter ta respiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la putréfaction, c'est-à-dire tout est à refaire. Pour combien de temps? Du moment que les gens ont raccordé des choses dans la lagune, comment faire pour rendre l'environnement propre? C'est au-delà de l'opération Togo propre. Non, il faut d'abord rentrer dans la tête des gens. Tu es en taxi, tu prends un sachet d'eau, tu n'as pas besoin, tu ne peux pas te permettre de jeter le plastique par-dessus bord. Ainsi, un autre citoyen devrait être en mesure de t'interpeller et te dire « ramasse ça ». Mais malheureusement, dans notre pays, je vois mal celui-là qui va oser dire à son prochain qui vient de jeter un sachet ou alors un papier dans la rue, de le ramasser. Il risque de passer un sale quart d'heure. Tant que la mentalité n'aura pas changé dans ce sens-là. Or, quand nous allons dans nos chambres, dans nos maisons, c'est apparemment propre. Ce n'est pas parce que la rue, elle est publique qu'on a le droit de la salir. Je ne suis pas d'accord. Donc, Togo propre, ça pourrait être initié autrement.
Togo propre pourra être initié autrement. Merci. Godson, oui, disais, nous, en tant que citoyens, c'est aussi un devoir civique hein, pour nous de rendre propre alors tout endroit où nous vivons, c'est-à-dire notre cadre de vie.
J'ai l'habitude de dire à quelques amis, à quelques collègues, à quelques voisins aussi, des fois, j'ai l'habitude de me moquer en disant que vous pensez que Forne Yassingbé viendra faire ceci un jour dans ce quartier pour vous, si vous ne vous levez pas pour le faire vous-même. Une façon d'interpeller la conscience des uns et des autres, de ce qu'on peut être capable de faire quand on se mettra à 5, à 10 dans notre quartier. Si on refuse de le faire et on attend que l'État vienne le faire à notre place, véritablement l'État ne viendra jamais le faire. Comme on dit, si on attend que l'État vienne balayer dans notre rue et que chacun refuse de balayer devant sa maison, d'entretenir devant chez lui et qu'on espère que l'État viendra un jour pour mettre le goudron, on va attendre très longtemps et on vivra dans la saleté, on vivra dans des problèmes. C'est vrai que l'État a ses responsabilités, mais le citoyen aussi a sa responsabilité à lui. Et on a dit beaucoup de choses la dernière fois dans ce studio. Des gens qui construisent des maisons en centre-ville aujourd'hui, qui n'ont pas de sanitaire, qui n'ont pas des élémentaires pour pouvoir rendre le quartier propre, la ruelle qui passe devant la maison propre, où les gens sont obligés, par exemple, de sortir toutes les eaux usées pour les jeter en désordre un peu partout dans la ruelle, dans les quartiers, ben, si vous attendez que l'État vienne régler ça, ben, vous allez attendre très longtemps. Parce que l'État ne viendra pas construire les puzards, ne viendra pas construire les fosses septiques dans les maisons des gens pour rendre la ruelle qui passe dans le quartier très propre. Ça, ça relève de la responsabilité des propriétaires maisons, donc de l'individu à la base qui commercialise une location. Donc, à partir de ce moment-là, il y a de ces actes que nous devons poser chacun en ce qui le concerne pour que le Togo propre dont nous parlons puisse commencer déjà dans nos maisons et que celui qui a construit la maison qui met en location, il n'a pas tort, mais ceux qui vivent également dans la maison doivent comprendre que là où nous vivons, nous devons rendre là-bas sain parce qu'un corps sain dans un environnement sain. Donc, si nous ne pouvons pas faire ça et il faut attendre chaque premier samedi du mois pour faire opération Togo propre et que le dimanche matin on reprend les mêmes habitudes, le lundi on continue, et ben le vendredi ça va s'empirer et le samedi matin on va reprendre encore opération Togo propre et comme il le disait, le travail de Sisyphe continue. Donc c'est déjà bien de dire qu'on doit faire l'opération Togo propre. Je connais dans des localités ça marche très bien, mais dans des localités où il est très compliqué de trouver tout le monde pour faire ça, il vaut mieux qu'on mette également l'accent sur la sensibilisation du citoyen et qu'on interpelle la conscience de chacun de nous en ce qui le concerne, ce que vous pouvez faire pour rendre déjà devant chez vous propre et du coup la ruelle qui passe chez vous propre, faisons-le déjà en attendant que un jour l'État ne passe par là en vous mettant le goudron, en vous mettant le, je sais pas, ce que vous voulez, en construisant la voie, en mettant les caniveaux et tout ça. Moi, le minimum, il faut que ça se trouve. On ne doit pas, il y a des quartiers, par exemple, qu'il pleuve ou qu'on soit dans la saison pluvieuse ou dans la saison sèche, vous ne savez pas. Parce que tout le monde sort l'eau de la maison et on jette en désordre dans la ruelle et vous voyez le quartier. Comme ce qu'il dit, tout le monde sort ce qu'il a comme eau usée. On jette partout dans le quartier. Vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas respirer. Le quartier, bon, n'a pas un bon visage. La ruelle n'a pas le visage qu'il devrait avoir. Et donc, ça, c'est de la responsabilité des citoyens, chacun en ce qui concerne dans ce quartier-là d'abord, en attendant qu'un jour, on interpelle le CDQ et que également les mairies commencent par faire, parce qu'aujourd'hui, on a, heureusement... On a la décentralisation. Comme elle est chez nous aujourd'hui, on l'a. Mais les mairies sont là aujourd'hui et elles doivent également accompagner cette dynamique-là en attendant qu'on remonte au niveau des ministères. Donc aujourd'hui, c'est une affaire de monsieur tout le monde. Les familles, les propriétaires des maisons, les CDQ, les CVD et puis les mairies qui doivent coordonner cette activité-là. Et que l'État chapeaute au final.
D'accord. Jacques, est-ce que vous pensez que déjà avec les 6 ans hein, que les mairies viennent alors de passer, bien sûr, c'est par rapport au mandat alors des maires, est-ce que sur le plan de l'assainissement, vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui a été fait?
Bon, quelque chose, oui, par certaines mairies, mais pas toutes quand même. Je ne vais pas citer des mairies, mais j'en connais quand même, dans certains quartiers quand même, qui ont fait un bon travail au niveau de leur mairie. Vous savez, Pascal, le vrai problème également, c'est que la décentralisation dont on parle, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas compris ce que c'est que cette décentralisation. Et l'autre aspect, c'est que il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y a trop de mairies, Pascal. C'est trop. C'est trop.
Et 117 communes.
C'est trop. 117 communes, c'est trop. Il faut qu'on puisse avoir le courage de les dire. Pascal, quand vous prenez certaines mairies, elles ne sont pas viables. Parce qu'il n'y a rien au niveau de ces communes-là. C'est peut-être un marché que vous allez trouver. Et ce marché-là, le fait d'aller tout le temps, par exemple, prendre les tickets et tout, finalement, les gens sont fatigués. Il n'y a plus rien. Et on le courage de le dire. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse repenser cette décentralisation, essayer de diminuer le nombre effectivement de ces communes-là. C'est trop. Parce que plus on a ce nombre-là, plus on ne voit pas, comment on appelle, l'efficacité de ce que ces mairies-là sont en train de faire. Parce que vous prenez Pascal, moi je connais des mairies à l'intérieur du pays, mais quand on parle de taxes, qu'est-ce qui se passe? Les gens, au lieu d'aller payer par exemple l'argent, ils vont avec les bols de maïs en contrepartie de l'argent. D'autres vont avec les pintades, les poules, en contrepartie contre de l'argent, parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez donc, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de pouvoir faire tourner effectivement ces mairies et voir effectivement l'efficacité de ces mairies. Je ne dis pas que pas toutes ne sont pas logées dans les mêmes enseignes. Hein. Certains ont quand même les moyens. Ça, il faut on puisse avoir également le courage de le dire. Mais je crois qu'il faudrait que le ministère de l'administration territoriale puisse revoir la composition effectivement de ces communes-là que nous avons au Togo. C'est trop. Essayer de diminuer et viabiliser effectivement ces communes-là. Je vous dis que si on viabilise cela, vous allez voir qu'on n'aura pas de problème pour pouvoir développer et permettre effectivement à ces mairies-là, vous prenez les marchés de quartier et tout, ils pourront les développer. Mais tant qu'il n'y a pas effectivement cette possibilité-là, Pascal, je vous dis qu'on aura assez de communes, assez de mairies, mais on n'aura pas ce qu'on veut.
D'accord. Gosson, vous, à votre niveau, est-ce que vous pensez qu'au niveau, surtout alors de l'assainissement dans les mairies, aujourd'hui, il y a un défi qui a été relevé? Parce que oui, c'est vrai que quand on prend même la capitale, entre-temps, on parlait de Lomé-la-Belle, mais avec l'assainissement, enfin, avec la décentralisation aujourd'hui, est-ce que le défi a été relevé vraiment?
Non. Je ne suis pas satisfait, très loin d'être satisfait.
Mais là, c'est la faute à qui?
Si on peut réécouter ce que Jacques vient de dire, le nombre de mairies pétoriques, tout comme le nombre de représentants du peuple, là, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire du bien.
Vous voulez parler des députés?
J'ai dit que le verre est à moitié vide, tu dis qu'il est à moitié plein.
Allez-y.
On n'a pas besoin de beaucoup pour faire du bien. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Regarde la population béninoise par rapport aux 77 maires qu'il y a. Le Bénin ne s'en porte pas plus mal. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas copier ce qui est bien, tricher chez l'autre ce qui est bien? Et c'est quand... C'est-à-dire... On aime s'abonner à la, je ne vais pas dire la médiocrité, mais à ce qui n'est pas, qui ne devrait pas aller dans l'intérêt de tout le monde. 117 communes. Pour, ou bien c'est combien?
Oui, c'est 117 communes.
Pascal, dis-moi concrètement, si aujourd'hui on nous dit que dans chaque mairie, on voudra mettre, ne serait-ce qu'à la disposition des jeunes, un terrain de football. Tu penses que le Togo a les moyens de construire 117 terrains aux normes moyennes pour la jeunesse? Mais si par exemple c'est 50, 60 communes sur toute l'étendue du territoire, c'est plus tenable et les mairies auront plus de marge de manœuvre. Parce que dans cette situation, hein, malgré le nombre pléthorique de maires, de mairies, on a retiré certaines attributions à certaines mairies. Dans quel but? Normalement, les municipalités doivent rassembler tout le monde, sans calcul politique. Nous partions au municipal sans jamais rêver qu'on va nous sortir un truc de district. C'est à l'arrivée qu'on parle de district. Et peut-être que ce n'est pas fini. Demain, si au bout des prochaines municipales, des partis veulent émerger, on va encore sortir des nouveautés, on n'aura que nos yeux.
Est-ce que c'est une spécificité togolaise quand on parle alors de districts, puisque Abidjan aussi, Dakar, districts?
Parce qu'assure-moi bien, il faudrait que au départ, quand tous les partis politiques étaient dans le starting block, on parle déjà de districts. On nous parlait seulement de mairies. Donc, on a lancé la course et c'est à l'arrivée qu'on dit non, il y aura la question de district et après qu'on doit tirer certaines structures comme le stade, les marchés aux prérogatives de certaines mairies. Au nom de quelle logique, Pascal? Soyons sérieux. Je n'ai pas besoin que ce soit
D'ailleurs, je n'ai même pas d'appartement politique. J'ai pas besoin que je sois le cas ou uni dans une mairie pour changer les règles du jeu. C'est malsain.
Didier, oui, c'est vrai qu'on aura le temps nécessaire hein, pour faire le bilan des mairies, bien sûr, ou de ce qui s'est passé pendant les 6 ans dans les mairies ou dans les différentes communes. On aura vraiment ce temps pour faire le bilan. Mais déjà, oui, Jacques a lancé le débat concernant surtout le fait que il y a beaucoup de communes. Alors au Togo, est-ce que vous avez aussi l'impression?
Ben moi, je l'avais dit dès le départ, et c'est perdu, je l'ai dit dès le départ, depuis 2019, à ce micro, à chaque fois que j'ai l'occasion, je le disais. Vous savez, notre pays a une histoire politique complexe, spéciale si vous voulez. Et je pense que des fois, nous ne tirons pas leçon de ce cours-là pour faire certaines choses. Et on crée beaucoup trop de problèmes politiques et on a aujourd'hui beaucoup trop de problèmes politiques au Togo qui font que le développement tant souhaité peine à prendre ou à démarrer, si vous voulez. Vous prenez la structure telle qu'on l'a aujourd'hui en matière de décentralisation. Et ça va être très compliqué pour les maires de vouloir faire des choses, d'initier des choses et de les mettre en œuvre. Vous savez, les maires aujourd'hui doivent rendre compte, ou si vous voulez, on parle d'autonomie et tout cela, mais on sait que bon, à peu près, c'est du leurre, parce que dans notre pays, on sait ce que c'est. Les maires, donc, en quelque sorte, sont sous la coupole des préfets ou des préfectures. Donc, il y a des maires qui avaient voulu faire des choses, ont été interpellés par les préfets. Les préfets eux-mêmes aujourd'hui sont chapeautés par gouverneurs. Et les gouverneurs, rendre compte justement, on va parler du ministère de l'administration territoriale ou tout ce que vous avez. Et on a cette ligne-là et ces paliers à franchir pour pouvoir faire valider peut-être quelque chose qu'on devrait faire. À partir de ce moment-là, ça devient très lourd et ça devient très compliqué. On parlait tout à l'heure de l'assainissement, de Togo Pro, de l'assainissement. Mais on veut construire un ponceau ou quelque chose, quelqu'un n'est pas d'accord, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et ma foi, ça rend les choses un peu plus complexes. Très complexes, à mon avis. Peut-être qu'on va dire que c'est des nouveautés. On a les gouverneurs viennent de prendre leurs fonctions. On va voir comment tout cela va fonctionner. Mais ça fait trop à mon sens. Maintenant, après, on parle des mairies elles-mêmes aujourd'hui. On en a 117. 117, c'est quand 6 000 et quelques kilomètres carrés. Vu que l'érosion côtière nous a pris quelques mètres carrés déjà. Donc, on en a autour de 56 000 et quelques kilomètres carrés. Aujourd'hui, 117 communes. Alors qu'on a d'autres pays qui sont beaucoup plus vastes que notre et qui ont beaucoup moins de communes. À partir de ce moment-là, vous prenez une commune comme, je dis n'importe quoi, Ogou 4 par exemple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et comment est-ce que ce maire-là va pouvoir travailler ? Vous prenez Sotoubois, une commune comme Sotoubois 3. Comment est-ce que le maire là-bas va pouvoir véritablement travailler pour que les résultats que nous espérons puissent véritablement être atteints. Moi, je serais à la place des autorités. On aurait pu calquer le modèle de mairie sur le modèle de découpage administratif pour les préfectures. On a, ma foi, aujourd'hui 39 préfectures. Bon, on peut transformer ces 39 préfectures en 39 communes et puis on avance. On avance peut-être avec un peu un statut spécial pour les communes de Golf et d'Aguenivé réunies. On pourra trouver une formule pour ces deux préfectures-là. Vous prenez une commune comme une préfecture comme Yoto, qu'on a découpée en trois communes. Mais moi, je suis allé à Couvé il y a deux, trois mois pour les funérailles de maman. J'ai jamais vu quelque chose qui a pu changer dans ce grand canton-là. Depuis qu'on parle de décentralisation, de mise en place des mairies, j'ai jamais rien vu qui a changé véritablement pour le bien et qu'on mettra sur le crédit de la décentralisation. Mais si on avait peut-être pris cette préfecture-là comme une commune et on a un maire un peu avec un peu de ressources qui peut faire des choses, ma foi, ça peut marcher. Mais ça a été le choix que les autorités ont fait. Ça va être compliqué de retourner en arrière pour faire les choses. Bon, je ne sais pas si les autorités vont faire comme Gorson le dit, mais moi, je pense que ça va être très compliqué de retourner en arrière parce qu'on a déjà habitué des gens à cette histoire de commune depuis 6 ans. Certains font l'expérience de commune. Donc, ça va être très compliqué de leur dire non, 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 un jour, chez vous ici, là, il ne va plus y avoir de commune. Ça va être très compliqué aujourd'hui. Surtout que certains vont vouloir se faire récompenser et vont justement demander qu'on transforme leur canton et leur milieu en préfecture. Ça aussi, ça a été le problème qui a fait qu'on est parti jusqu'à 117. Parce que beaucoup de gens voulaient avoir une commune chez eux. Et ben voilà, le pays étant ce qu'il est, les barons, les poids lourds, tous vous connaissez. Et on est arrivé à ce résultat-là aujourd'hui. Maintenant, 6 ans après, faisons le bilan et tirons les leçons. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Si on en avait moins, est-ce qu'on n'aurait pas eu beaucoup plus de résultats avec les ressources qu'on a? Si on a, par exemple, je dis n'importe quoi, si on a 1 milliard pour 10 communes, les résultats auraient été différents de on a 1 milliard pour, je dis n'importe quoi, 100 communes.
Tout à fait.
Oui,
tout
les ressources fait. Ne vont pas être les mêmes, les effets ne vont pas être les mêmes, les résultats ne vont pas être les mêmes. Donc, aujourd'hui, je pense, c'est la période maintenant de commencer. On a commencé un recensement électoral aujourd'hui. Une révision électorale révision aujourd'hui. Donc, c'est la période de commencer par interroger le bilan de la décentralisation en ce qui concerne les mairies aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que ça a apporté du mieux? Si ailleurs, on peut trouver quelques résultats satisfaisants, notamment à Lomé et dans les environs, est-ce que c'est la même chose dans l'intérieur du pays avec beaucoup trop de communes, des fois, dans des préfectures où il y avait moins de moyens?
D'accord.
Je crois que rapport à ce que Didier disait, bientôt on fera le bilan. Donc, c'est à partir de ce bilan-là qu'on va tirer les leçons et les conclusions. Pourquoi? Quand il dit que ce n'est pas possible, ce sera possible. Vous ne pouvez pas investir dans quelque chose qui ne vous rapporte pas. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut réfléchir, il faut changer. On ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Si le gouvernement veut vraiment changer, on peut changer. Parce qu'on a vu la gestion de ces mairies-là, vraiment, ce n'est pas du tout une bonne gestion. Moi, je ne vais pas donner les noms de certaines mairies, de certaines localités.
Mais Jacques, c'est relatif, puisque sur d'autres situations, on vous dira qu'il y a certains maires qui ont fait une bonne gestion.
Oui, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas la même chose, Pascal. Ce n'est pas la même chose. Pascal, on peut déposer un plat devant nous quatre ici. La façon dont tu démarres, c'est la même façon que Gorson ou Didier vont démarrer.
Tu ne penses pas si bien dit. Mmh. Récemment, j'en avais parlé. Mmh. Lors des délibérations dans les commandes publiques, tu une quinzaine à ce jour de marchés passés par différentes communes. Il faut oser le dire, seul Golf 4 a été presque félicité. Ou alors, c'est-à-dire les gaffes commises par Golf 4 ont été très mineures par rapport aux 14 autres. Que comprendre par là? Point d'interrogation.
Non, je crois que Pascal, il faut pas dire que c'est pas possible. C'est possible. S'il y a la volonté politique, on peut avancer. Parce que c'est la politique dans cette affaire.
Mais réduire le nombre de communes.
On peut. Pourquoi?
On a 61 sénateurs, 113 députés. Donc moi, je reste pessimiste à ce sujet-là au moins.
D'accord. Alors parlons politique, puisque ça a été bien sûr annoncé. Nous allons parler politique. C'est vrai que la question alors de la 5e République a toujours fait toujours débat au sein de l'opinion. Et le vendredi dernier, c'est des chefs traditionnels notamment des chefs traditionnels d'Adakwame qui sont rentrés dans la danse. Gosson, on a vu des chefs traditionnels qui ont fait une déclaration, et dans cette déclaration note tout simplement que ces chefs traditionnels apportent leur soutien à la 5e République. Des chefs traditionnels qui sont ainsi ou qui s'affichent ainsi dans la politique, est-ce que c'est pas du nouveau, Gosson?
On soutient ce qui vacille. Quand c'est bien posé, ça n'a pas besoin d'être soutenu. Avant ou alors après qu'on a imposé ce dont tu parles, on a vu une campagne de sensibilisation envers ces chefs. Ils étaient où pour ne pas faire de sortie en ce moment? Et il a fallu que les gens montent sur leurs chevaux pour dire non à ça. Et de l'autre côté, qu'on mobilise des fonds pour une autre campagne de sensibilisation pour enfin écouter ou entendre des chefs. On est obligé de les appeler chefs. Parce qu'un vrai, ça a de la dignité, Pascal. Je te dis, un chef de village, de quartier, c'est quelque chose qui inspire, qui a de la dignité, qui ne se rabaisse pas à un certain niveau. Ce dont tu viens de me parler, heureusement que je ne m'y suis pas intéressé. Mais puisque tu me poses la question, c'est mon avis, franc et sincère.
Disais, déjà des chefs traditionnels hein, qui apportent leur soutien, puisque c'est ce qui est dit dans leur déclaration, apportent leur soutien à cette 5e République. Est-ce que finalement, pour le citoyen lambda, on en a besoin?
Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas le rôle des chefs traditionnels que d'apporter un soutien à une constitution dans un pays. Ce n'est pas leur rôle. Ils doivent, un chef traditionnel, moi, étant petit-fils, voilà, de ce qu'on peut appeler chef traditionnel ou chef de quartier, chef de village, un chef, ça se met au-dessus de la mêlée. Et un chef, ça travaille beaucoup plus pour le consensus et ça travaille beaucoup plus pour la cohésion de son milieu, et aussi, vous voulez, au-delà du pays. Donc, un chef ne se met pas dans des sujets qui divisent, mais travaille plutôt à rassembler des gens. Ce sujet-là est un sujet de division, ma foi, dans l'opinion actuellement, et il n'appartient pas à des chefs traditionnels de monter au créneau et de dire ils soutiennent ou ils soutiennent pas. D'ailleurs, même on n'a même pas besoin de leur avis sur le sujet. On n'a pas besoin véritablement de leur avis. Ma foi, je le dis encore une fois, une constitution n'a pas besoin d'être querellée. Une constitution n'a pas besoin d'être discutée. Une constitution avait juste besoin des bases, de partir sur des bases solides, et puis on évitera beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça a été le cas ou si ça n'a pas été le cas, mais la constitution qu'on a actuellement, ma foi, a été ce qu'elle est, a été faite dans des conditions où on l'a. Aujourd'hui, on a la constitution, qu'on a commencé déjà par l'appliquer, et donc il ne revient pas à des chefs traditionnels de venir de dire on soutient ou on ne soutient pas. Qu'ils soutiennent ou qu'ils ne soutiennent pas, le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, pour ne pas créer des problèmes de cohésion sociale dans le milieu où ils sont des chefs, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Parce qu'une fois qu'ils s'affichent ainsi, des gens dans leur quartier ne leur donneront plus respect, ne leur voueront plus respect et ne vont plus les vénérer parce qu'on les appelle les vénérés chefs traditionnels. Donc à partir de ce moment-là, les gens, beaucoup de personnes là dans leur quartier ne vont plus vénérer. Et un chef n'a pas besoin de s'afficher politiquement et de prendre des positions politiques. Ils ont besoin juste d'être au-dessus de mêlée. Et s'ils ont été consultés, ils peuvent donner leur avis sur un certain nombre de sujets. Et s'ils pensent pouvoir apporter leur savoir-faire pour qu'on améliore un certain nombre de choses, ils peuvent l'apporter. Mais prendre une position aussi politique publiquement et au point d'en faire des déclarations, ma foi, ça ne revient pas à un chef traditionnel et ça ne les honore pas.
Jacques, est-ce que ce n'est pas juste leur avis qu'ils ont donné alors sur ou leur point de vue qu'ils ont donné sur quelque chose qui fait polémique actuellement? Est-ce que c'est mauvais?
Non, mais si tu permets, une minute avant Jacques, parce que ce que ça peut transmettre, ça peut transmettre comme image derrière derrière l'action de ces chefs, ça va dire que mais comme on a lancé une campagne de sensibilisation 5e République, ils ont été un peu soudoyés pour voilà, comme c'est ce que Gosson est en tête de dire, mais il a pas dit, il dit qu'on ne soutient que ce qui vacille. Mais ces chefs, pour leur honneur, pour leur image, n'avaient pas besoin de s'afficher ainsi. Ils peuvent avoir leur position à eux, parce que les chefs votent. Ils peuvent aller voter parce qu'ils soutiennent. Mais le simple fait de se montrer et de s'afficher en faisant une telle déclaration, c'est là où se trouve le problème.
Oui, mais Jacques, est-ce que ça discrédite vraiment ces chefs quand ils sortent ainsi et donnent leur point de vue sur ce qui est de l'actualité?
Non, vous savez, Pascal, d'aucuns vous diront également que si, supposons que ces chefs traditionnels s'affichaient également pour dire qu'ils soutiennent l'opposition contre la 5e République.
on va annuler leur décret de reconnaissance.
Non, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que c'est pile en face, comme le disent les Anglais. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que, vous savez, au Togo, on n'arrive pas à se départir de certaines choses. C'est-à-dire que au-delà de tout, certains mélangent leur position, leur place par rapport à leur émotion. C'est tout le débat à ce niveau. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple cette constitution, pourquoi encore on va la vulgariser? Pourquoi encore on va apporter le soutien? Parce que on a déjà installé le Sénat. On a élu le bureau du Sénat. Le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale vont se retrouver bientôt. Le président du PC,
le président de la République.
Voilà, et le président de la République. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut encore parler de cette constitution.
Mais Jacques, là, est-ce que ce n'est pas parce qu'on pense que le citoyen lambda n'a pas encore cerné l'essentiel alors de cette constitution?
Non, c'est-à-dire que si on fait ça, on se tire encore une balle sur le pied. Parce que déjà, les institutions sont déjà... C'est pourquoi, excusez-moi Pascal, moi je ne suis pas d'accord avec le ministre, monsieur Abui, qui est en train encore de repartir, aller dans les îles pour dire qu'il vulgarise encore cette constitution. Non, il faut laisser ça. C'est-à-dire que la constitution est déjà en marche. C'est à travers cette constitution que le Sénat a été mis sur place. Le bureau du Sénat est déjà là. C'est-à-dire que moi, il y a des choses. C'est, pense-là, Pascal, si on peut prendre cet argent-là pour ne serait-ce que mettre des forages pour des populations qui en ont besoin, c'est mieux. Moi, je crois qu'il faudrait que les... Je serais, par exemple, à la place de M. Fornia Singbe, si un ministre vient encore vers moi pour dire que lui veut vulgariser encore cette constitution sur toute l'étendue du territoire, je lui dirais, mon ami, va t'asseoir. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, le train est déjà en marche. Vous voyez, donc évitons des clichés sur cette constitution. Elle est déjà en marche. Laissons la constitution produire ses fruits. Et on veut mais dire que les chefs traditionnels, peut-être demain, ça sera les imams, les pasteurs, les prêtres traditionnels qui vont se lever également pour dire qu'ils apportent leur soutien à cette constitution. Moi, je crois qu'on n'en a pas besoin de ça. C'est-à-dire que les institutions se mettent déjà en place, les institutions sont déjà en marche. Bientôt, les deux chambres vont se retrouver pour élire le président de la République. Donc, il n'y a plus à dire que non. Revenons en arrière par rapport à qui que ce soit. Expliquez quoi encore, Pascal? Parce que le même ministre qui va encore sur l'étendue du territoire nous avait dit qu'il est allé, il a expliqué. C'est ce qu'on nous avait dit. Il a expliqué, les populations ont compris. Et finalement, les députés ont adopté la Constitution. Je ne vois pas pourquoi encore il faut retourner encore le même ministre pour dire qu'il vulgarise. Il vulgarise quoi encore? Est-ce qu'un article a été ajouté à cette constitution? Est-ce qu'un article a été retranché de cette constitution? Non. Je crois que laissons les choses aller comme choses. Je crois que, comme je l'ai dit, les institutions progressivement se mettent en place. Laissons cette constitution de côté. Pensons pour le bonheur de notre pays.
D'accord. Alors, nous allons aborder un autre sujet. C'est par rapport à la RDC. On sait que déjà, il y a le président de la République, hein, togolaise, Fornia Singbe, qui pourrait bientôt intervenir dans la facilitation du conflit persistant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et c'est le président en exercice alors de l'Union africaine qui a porté son choix sur le président de la République togolaise. Gosson, l'information, quand vous l'avez peut-être reçue, quand le président de la République est choisi comme médiateur de l'Union africaine dans ce conflit, est-ce que vous voyez quand même que c'est la personne indiquée qui pourra justement assumer ce rôle?
À mon sens, notre président Fornia Singbe est la personne la mieux indiquée pour faire se tenir une assise nationale, comme réclamé par certains partis politiques autour de ce qui clive sur la constitution nocturne là. Là, il est la personne la mieux indiquée. Pour ce qui est du Rwanda et de la RDC, je suis juste surpris, étonné, ébahi. En ce sens que les deux présidents
RDC Rwanda s'était retrouvé à Doha, si au Qatar, je crois,
oui,
si je ne me trompe pas. Ils se sont dit beaucoup de choses. Jusque-là, on ne nous a pas fait comprendre que la rencontre de là-bas a capoté ou non. Aujourd'hui, on nous dit, je n'en ai pas les preuves, qu'il a été désigné facilitateur. Tout comme il a été désigné facilitateur entre l'AES et la CDAO. Aujourd'hui, ça n'a pas empêché le clivage entre les trois pays qui forment l'AES et le reste de la CDAO. Pour être honnête, franc et sincère, cette médiation n'avait donc pas abouti. Aujourd'hui, on parle de notre président comme médiateur. Est-ce le président ou le président du Conseil des ministres? Parce que là, c'est ce qui va se faire. Est-ce que c'est le président du Conseil des ministres qui est choisi facilitateur ou le président de la République que nous ne connaissons pas?
Non, mais ce qui est sûr, pour le moment, c'est le président de la République,
oui, hein, Faure Gnassingbé. Nous sommes en...
Non, là, actuellement, nous ne faisons pas quand même d'amalgame.
Je ne parle pas d'amalgame, oui, Pascal. Nous sommes le 7.
Oui, c'est...
Dans moins d'un mois.
Enfin, le nom a été bien cité. C'est Faure Gnassingbé qui a été choisi pour faire cette facilitation.
Avec un titre, Pascal, justement. C'est très important. Avec un titre.
Et on parle du président togolais.
Dans moins d'un mois. Pour le moment. Et après. Donc, on devrait changer.
Restons dans le moment d'abord avant d'aller après.
Ah non. C'est ça qui nous bloque au pays. Nous n'avons pas de vision. Il faut avoir de la vision, se projeter dans l'avenir avant d'agir.
D'accord. Voilà. Ok. Oui. Disais, vous, comment vous avez apprécié quand même ce choix porté sur le président de la République, Faure Gnassingbé?
Non, choix qui reste à confirmer, de toute façon.
Justement, c'est vrai que c'est reste à confirmer, mais pour le moment, c'est ce que le président en exercice de l'Union africaine a dit, c'est-à-dire c'est ce choix-là qu'il a fait.
Oui, le président du Togo, dans ce cas, Faure Gnassingbé, Gosson, a été proposé donc pour prendre donc la relève de la médiation au nom de l'Union africaine, donc au nom de l'Afrique, entre les parties prenantes de conflit dans l'est de la RDC. Pour le Togolais que nous sommes, au-delà de nos problèmes en interne, on ne peut que être heureux de ce que le savoir-faire togolais est sollicité pour pouvoir régler un problème qui se pose sur le continent africain. Moi, c'est dans ce sens que je prends la chose. C'est le savoir-faire togolais qui est sollicité pour aider d'autres Africains à sortir des problèmes, d'un problème qui ne finit pas ou d'une situation que les gens n'arrivent pas à régler depuis très longtemps. Est-ce que, en attendant que le choix ne soit confirmé donc par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, nous pensons que il est possible que le Togo puisse apporter quelque chose dans la résolution de cette crise, même si nous savons que ça va être beaucoup très complexe. Nous avons titré hier que Lawrence Chaud veut passer la patate chaude à Faure Gnassingbé. Ça fait rire. Un peu certain dans la diplomatie, mais c'est une réalité. Le dossier congolais, le dossier de l'Est de la RDC, c'est un peu comme une patate chaude aujourd'hui. Et c'est très compliqué. Beaucoup de personnes ont essayé de régler le problème. Le président sud-africain, même du Joao Lourenço lui-même, et d'autres personnes ont tenté beaucoup de choses sans pouvoir mettre d'accord les belligérants et les différents acteurs partie prenante dans ce conflit-là. Et il faut justement que le Togo, qui doit apporter son expertise aujourd'hui, doit savoir que ce conflit a des causes et des sources qui vont au-delà de l'Afrique. Et donc, dès lors que le problème ne sera pas cerné dans ce sens-là, qu'il y a beaucoup d'enjeux là-bas, au niveau de l'Est de la RDC, et que les parties prenantes, tous les acteurs ne sont pas qu'africains, et qu'il y a des acteurs qui viennent d'ailleurs, il va être très compliqué de résoudre ce problème-là. Gosson parlait tout à l'heure de la rencontre de Doha qui avait eu lieu entre les deux présidents en tête-à-tête avec les responsables qataris. On nous a dit qu'il devait y avoir des améliorations dans les jours à venir. Ça peine à arriver, aujourd'hui, est-ce que le Togo pourra réussir là où beaucoup de personnes ont échoué? Espérons, pour le bonheur des Congolais qui vivent dans l'est, à Goma, et dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, par là, pour leur bonheur, le bien-être, espérons que le Togo réussisse, que la paix revienne là-bas. Mais si le Togo ne réussit pas, ça va être juste dommage pour nos frères et sœurs congolais qui vivent là-bas. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on réussisse pour que la paix revienne là-bas, pour nos amis, nos frères et sœurs congolais, africains, qui vivent là-bas, pour que les armes arrêtent de crépiter et qu'on arrête de perdre beaucoup plus de morts. Ce conflit-là a fait beaucoup de morts. On parle de 10 millions, certains, bon, les chiffres ne sont pas si exacts que ça, mais il y a beaucoup de morts de toute façon dans cette affaire-là. Et il faut qu'à un moment donné, des gens, si le Togo peut apporter son expertise, que ce soit par la personne de M. Fornia Singbe, ou par le biais de sa diplomatie, des acteurs diplomatiques togolais, ou par le biais d'autres personnes. Le Gosson parlait de demain le président de la République du Togo et de demain le président du Conseil des ministres du Togo, dont il connaît déjà le nom. Certains l'ont déjà encore annoncé ce week-end, M. Fornia Singbe, qu'il soit président de la République demain ou président du Conseil des ministres demain. Si par son expérience et tout son savoir-faire, il peut apporter de la paix là-bas, moi je serai heureux. D'abord pour le Togo, parce que le savoir-faire togolais a pu permettre d'avoir quelques résultats, mais beaucoup plus heureux pour nos amis, nos frères et sœurs congolais qui vivent tout le temps dans des problèmes, dans des conflits là-bas.
Jacques, si le choix est porté sur le président de la République, Fornia Singbe, c'est parce que déjà, il y a eu, justement, il a joué le rôle alors de médiateur dans d'autres conflits aussi. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la personne indiquée pour régler ce problème? Puisque il y a Didier qui le disait tout de suite, que c'est un peu complexe hein, pour ce conflit au niveau alors de la RDC ou à l'ex de la RDC.
Bon, Pascal, vous savez, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire que c'est entre chefs d'État au niveau de l'Union africaine que le nom de M. Fornia Singbe a été proposé. Sûrement qu'ils ont vu en lui peut-être une personne qui a des liens avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Sûrement qu'il y a peut-être un lien d'amitié entre les trois. Et bon, peut-être qu'ils ont pensé que le président Fornia Singbe peut jouer ce rôle. Et l'autre aspect, c'est que, vous savez, ce conflit-là, ce n'est pas un conflit entre Congolais. C'est-à-dire que c'est un conflit entre des puissances. C'est-à-dire que c'est des puissances qui sont là, qui sont en train de puiser les richesses du Congo. Au fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas seulement les Rwandais. Il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Belges, il y a les Burundais, et beaucoup. Donc je crois que c'est un melting pot au fait, ce qui se passe au Congo. Donc le président Fornia Singbe aura fort à faire parce que c'est une guerre de richesses. Et quand on parle de richesse, vous savez que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Donc, moi, mon souhait, c'est que si il pense que M. Fornia Singbe peut discuter avec les Américains, discuter avec les Français, discuter avec les Suisses, discuter avec les Belges, pour trouver une solution, ça serait bon. Parce que ce conflit, je vous dis une fois encore, c'est pas un conflit seulement entre le Rwanda et les Congolais. Non. C'est un conflit vraiment international sur les richesses effectivement du Congo. Donc si ces puissances-là acceptent qu'on règle le problème va se régler. Et les uns et les autres l'ont dit. Il y a une autre médiation qui a commencé au niveau du Qatar. On ne sait pas là où ils en sont. Moi, je crois que si le choix a été porté sur Fornia Singbe, il faudrait vraiment qu'il puisse vraiment voir comment il peut aider effectivement les Congolais, parce que vous voyez ce qui se passe là-bas, un malheur ne vient pas seul. Vous avez vu hier également ces inondations qui sont en train encore de les envahir là-bas.
Et qui tuent des personnes.
Oui, donc je crois que le Congo, il faut vraiment beaucoup prier ce pays. Il y a la guerre, mais il y a également l'eau qui les crée également des problèmes. Quand vous voyez l'urbanisation du Congo, et Pascal, si vous voyez les richesses que ce pays a là, et qu'on vous dit encore que le Congo, vous quittez par exemple Baie pour aller vers Côte d'Ivoire-Copé, vous êtes obligé de faire 2 heures de temps pour arriver à Côte d'Ivoire-Copé à cause des bouchons. Il n'y a pas de route. Donc je crois que c'est un peu vraiment un problème complexe, ce qui se passe au Congo. Donc Si notre président peut faire quelque chose, nous le souhaitons que bonne chance.
D'accord. Alors, il est déjà midi. Nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne sur nos deux numéros 90 86 35 35, 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est sur ces numéros que nos auditeurs peuvent réagir, bien sûr, à travers le message sur le WhatsApp et aussi à travers l'appel téléphonique. Et donc, mais bien avant, nous allons fait un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Bonjour, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, togolaisement.
D'accord, j'espère que vous avez bien commencé la semaine.
Oui, 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 comme togolaisement, là, même si tu as la morgue, tu te dis que ça va.
Et... D'accord, allez-y, Basile.
Oui, oui. Moi, je n'ai pas fait l'analyse de comment le Togo, surtout le président, c'est pas le Togo. Moi, si je dis ça, ça veut dire que moi-même, j'ai fait un lapsus lingueux. Quand on choisit le président, c'est des médiations que nous, on s'en va chercher pour faire taire le peuple togolais, histoire pour nous dire que taisez-vous, votre président, c'est le mieux en Afrique. Est-ce que vous voyez? Ça, il faut mentionner dans vos petits calepins, c'est des médiations que nous, on s'en va chercher.
Mais Basile,
ça ne nous apporte rien.
Basile,
oui.
Mais c'est pas le président de la République Fonia Singbe qui s'est proposé. Et c'est plutôt le président en exercice de l'Union africaine qui l'a proposé en tant que médiateur.
Et c'est ça que je vous dis comme ça. C'est quelqu'un qui va là-bas auprès de ce président de l'exercice de quoi Union quoi de quoi pour vous parler là. Quelqu'un qui va là-bas chercher médiation. C'est comme ça que le Togo fonctionne.
Mais je ne sais pas si on se comprend. Basile,
oui.
Je ne sais pas si on se comprend, puisque l'information, c'est les faits. Il faut quand même que si nous voudrons analyser, analysons les faits.
Mais qu'est-ce qu'on va analyser?
Oui, il y a une proposition, c'est la proposition alors du président de la République, c'est même pas le président qui s'est proposé lui-même.
Moi, je ne dis pas que lui-même, il va aller se faire proposer, mais j'ai dit que c'est...
D'accord, merci pas beaucoup. Oui, merci beaucoup, Basile. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame Messi.
Oui, j'arrive. J'arrive beaucoup parce que, bon, pour Basile et tout ça. Voilà. Cinquième République. Hein? Des gens qui ont gouverné dans 62 ans. Moi, je continuerai toujours à pas le dire. Deux ans, sans développement, ils ont tout braqué, ils ont tout pris. 62 ans après, pris par le temps, six décennies, tout des six décennies. Maintenant, ils se créent une transition eux-mêmes. Ils se créent une transition et ils fabriquent des lois, machin. Cinquième République, ils se font roi, Seigneur, Dieu, tout ça là. Et puis, la fameuse CEDEAO, l'OUA là. Rien, alors qu'ils ont des lois qui régissent ces trucs-là, ils disent rien, la communauté internationale et l'Union européenne, on leur dit rien ici. Et puis, les gens font ce qu'ils veulent, à la main. Là, on l'envoie où? On envoie le Togo en médiation de guerres dévastatrices. Vraiment, le Togo fait ça depuis 60 ans. 60 ans. Et là où il y a le désordre, là, les coups d'État, les guerres, les machins, le Togo fait ça, fait que ça. Et ça continue. Moi, je serai les gouvernants de 2005, là. Je changerai les donnes. Je ferai autre chose, quoi. Pour que ce pays respire. Et Madame Awanana est où? Elle est au Togo. Je veux savoir quoi. Si elle est là. Merci bien.
Merci pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Allô?
90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, monsieur.
Allez-y.
Oui. On a vu comment ce qui dit était venu au Togo. On était allé à Kigali il n'y a pas longtemps. Avant qu'ils ne soient médiateurs au Mali, vous avez vu leur voyage en Côte d'Ivoire. Et... c'est un groupe qui fait négocier les médiations. Il a négocié chez ses amis, on l'a proposé. Donc, quitte à l'ensemble des présidents africains de voir si ça serait accepté. Mais comme ils savent chercher les médiations, on va leur passer ça. Mais comme l'a dit Godson, la médiation au Mali, ça n'a pas réussi. Parce que l'aboutissement, c'est que la AES est créée et le Togo fait le jumping pour rentrer dans la AES. Je ne sais pas, c'est le panafricanisme qu'il veut aller créer maintenant en étant médiateur de l'Afrique australe. Ah, champion à négocier. La dernière fois, j'ai écouté un député demi disant que l'opposition fait des meetings anti-Gorille. Laissez-moi dire que s'il est à l'écoute, il a fait des explications fantasmagoriques avec plein de fantasmes. C'est une comédie.
Merci pour votre intervention. Bonjour le plateau. Je comprends ces chefs traditionnels de soutenir la 5e République, car dans ce pays, la majorité des chefs traditionnels sont nommés par le régime RPT uni. J'ai un chef traditionnel quitté ce canton car il ne supporte pas le régime RPT uni dans ce canton ou dans sa préfecture de Tsaoudzo. C'est Salissou Mohamed qui nous écrit depuis Sokodé. 90 86 35 35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien.
D'accord. Vas-y.
Vous savez, occupons-nous de nous un peu. Occupons-nous de nous un peu. Pourquoi je dis cela? Si moi j'ai la possibilité, je vais porter plainte contre le maire du Gobstek. Le maire de Gobstek. Allô, monsieur Dadizo Gomé. Il a tassé des ordures presque 3 mètres. Quand on a parlé, ils sont partis mettre le feu. Ça fait une semaine, ça brûle. C'est normal ça? Et les femmes sont à côté. Ils rendent les femmes malades. Et après, on va dire qu'il est encore élu. Non, écoutez-le de nous. Moi, je vais porter pour encore le maire de Gobstek. Merci, bonne journée.
Merci pour votre intervention, M. Gado. Allô?
Il va payer. Oui?
Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Le commandant Terrain, en fait. Viens, vous êtes commandant.
Allô, bonjour.
C'est...
Décidément, il n'est pas avec nous. Bonjour Pascal et bonjour le plateau. Comme je l'avais dit il y a quelques jours, cette campagne d'explication de la nouvelle constitution n'est qu'une perte d'argent et d'énergie. On peut prendre tout ça pour faire autre chose. Ma question est, est-ce que la chefferie est un poste politique concernant la probable médiation togolaise en RDC? Je ne peux que dire bon vent. Que Dieu fasse que ça réussisse. C'est Cyril qui nous écoute depuis Canada. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Allô?
Oui, je vous écoute, comment vous allez?
Je ne vous entends pas, s'il vous plaît.
Moi, je vous écoute très bien. Votre nom?
D'accord, moi, c'est Kodjo, hein, depuis Agoué.
Kodjo, depuis Agoué.
Kodjo, depuis
oui,
Agoué.
Oui, allez-y.
Voilà, j'ai deux interventions en ce qui concerne la Constitution et puis une autre intervention en ce qui concerne médiation.
Oui, allez-y.
Déjà, la Constitution, il y a un de vos invités qui a fait savoir que le train en marche et qu'on avance et que les institutions ont été déjà lancées et que, bon, voilà, il n'y a plus rien à se faire. Moi, je suis choqué que ce genre d'analyse, quoi, parce que si demain, ce même groupe-là se lève, on fait une 6e constitution, on s'en fout du peuple, on va encore dire, bon, ça a été fait, et puis on avance. S'il se lève un mois après, on s'en fout, on fait autre chose. Bon, c'est eux les dirigeants. Hein. Ça a été fait, ça a été consommé, on avance. C'est-à-dire que le peuple, lui, est dupe. Le peuple, lui, est là pour pouvoir accepter tout ce qui se fait, et sans rien dire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la parole à ce que les gens puissent s'exprimer. Même si aujourd'hui, vous dites que les élections sont lancées, et que le train est ou bien le vin est déjà tiré qu'il faut le boire, excusez-moi, mais laissez les gens s'exprimer.
Oui, mais,
et exprimer leur amertume. Parce
alors, monsieur Kodjo.
Oui, c'est grave ce qui se passe. Mais bon, le peuple, il est comme il est. Les dirigeants sont comme ils sont. Le peuple mérite les dirigeants que nous avons. Deuxièmement,
et allez-y.
Si le ministre se permet de continuer de pouvoir faire, je ne sais pas quoi, comment est-ce que vous avez appelé ça, la vulgarisation de cette constitution, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont même pas convaincus eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, eux-mêmes, aujourd'hui, ne sont pas convaincus de ça. Ils savent que cette pilule-là, difficilement, le peuple est en train de l'avaler. Donc, il faut continuer. Donc, ils sont dans cette démarche. Ils savent que c'est pas ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue par rapport à la constitution-là.
D'accord.
Mon troisième point, c'est, quelqu'un a dit là-bas que l'expertise togolaise se fait voir ailleurs. Quelle médiation le président Faure a une fois fait, ça a réussi, dites-moi. L'AES et puis la CDAO, ça a réussi. Par contre, on dit que son père a réussi là où beaucoup ont échoué. Mais lui, jusqu'à présent, il n'y a rien à son actif comme réussite. Je suis désolé. S'il vous plaît, vous êtes journaliste. Essayez de faire des analyses objectives et éclairer le peuple, la population sur ce qui se passe.
Merci Kodjo pour votre intervention, mais il est très important quand même que vous nous écoutez et que ce que nous disons, et que vous analysez même d'ailleurs ce que nous disons à l'aune de vos analyses aussi, puisque nous ne sommes pas réfractaires quand même à tout ce que vous dites aussi. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Bonjour, Radio Canal FM.
Oui, votre nom c'est...
Monsieur, cher journaliste. Vous avez Monsieur Agbouvon depuis Zanguéren.
Monsieur Agbouvon depuis Zanguéren, allez-y.
Oui. S'il vous plaît, je vais éclairer un peu nos chers frères qui sont des opposants. Nous avons voté à des gens dans notre pays. Ils ont refusé d'y siéger. Maintenant, ces mêmes gens nous demandent maintenant d'aller s'enrouler encore. Ils veulent quoi? Maintenant, on a changé la constitution. Mais nous sommes où? Regardez ce qui se passe. En Turquie, on a incarcéré une seule personne. Hein. Une seule personne. Regardez combien de nombre de personnes sont sorties. C'est parce qu'ils savent comment faire la politique. Mais nous faisons de n'importe quoi ici. Mais ça veut dire que nous avons voté. Nous sommes allés voter. Vous êtes à la maison. Maintenant, vous nous demandez d'aller faire quoi encore? Mais merde.
Monsieur Gouvon, voilà, il est parti. 90, 86, 35, 35. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, c'est Johannes.
C'est Johannes, allez-y Johannes.
Vous savez, quand on a le temps de développer son pays, quand on a le temps de réaliser les projets dans son pays, on n'a pas le temps de circuler dans les autres pays pour chercher, pour faire une quelconque médiation. Regardez un peu autour de nous, vous allez voir les présidents, ces présidents-là qui sont acharnés. Chaque jour, font des choses dans leur pays. Ils ne sont pas dans les avions à aller faire des médiations partout. Quand tu sais que tu souffres d'illégitimité, tu as besoin de cette reconnaissance de l'international. Et c'est là où on commence à tomber sur des médiations partout. Lorsque Bakri disait que il ne faut pas qu'on cherche des médiations. Ça se comprend. Ils ne vont pas venir nous dire tout ce qui a été fait avant que cette médiation ne soit confiée à notre président. Nous, on ne le sait pas. Tout ce qui s'est passé dans les coulisses, on ne le sait pas. On ne va pas juste se contenter de l'annonce. Voilà. Donc,
D'accord.
Faut qu'on s'occupe de nous, comme un autre l'a dit aussi. Et là, je pense que c'est quand on aura besoin de nous pour une quelconque médiation, on viendra réellement nous faire appel.
D'accord, merci beaucoup Johannes pour votre intervention. Johannes, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Je lis cette réaction. Bonjour Canal FM, pour certains de nos mairies, vraiment c'est déplorable. Comment pouvez-vous imaginer que j'étais parti dans une mairie dans le Golfe 5 pour légaliser un dossier? On m'informe que le maire est en voyage pour une semaine que de passer après. Vraiment c'est déplorable. Il va falloir à nos maires de faire le travail. Merci, c'est André qui nous écoute depuis Dakar. Alors, nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table avant de mettre un thème dans cette émission. Oui, Jacques?
Non, je voudrais
par rapport à l'auditeur qui disait qu'il faut pas, il parlait de la Constitution. Vous savez, Pascal, il disait que le train est en marche et qu'on ne peut plus rien faire. Je ne crois pas que si ce bateau, quelqu'un lui a dit. C'est, on parlait de la position des chefs traditionnels.
Tout à fait.
Et c'est de ça qu'on parlait. Et puis, vous savez, il faut qu'on soit honnête lorsqu'on est journaliste et lorsqu'on est, par exemple, un animateur de la scène politique. Ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays, il faudrait que nos chers opposants puissent encore revenir dans la pédagogie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont dans un flou total. Parce que voilà une constitution qu'on combat, on dit on n'est pas d'accord, on invite les gens à aller pour la révision des listes électorales, en attendant encore les joutes électorales parlant par exemple des mairies. Et d'aucuns diront que non, que quand on parle par exemple des mairies, cela n'a rien à voir avec la nouvelle constitution sur la 5e République. Mais ce qui est là, c'est que celui qui convoque par exemple ce corps électoral, il est de la 5e République, vous comprenez. Donc, il faut une pédagogie pour faire comprendre aux populations ce que c'est. Sinon, je vous dis que là où nous allons, Pascal, nous risquons qu'on soit dans un cafarnaum total et que les gens soient là, ils ne comprennent rien. Donc ça, c'est de la responsabilité des acteurs politiques de mieux expliquer aux populations. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour la Constitution, la 5e République, n'allez pas aux élections. C'est ça, aujourd'hui, ce que certains disent. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord au fait. C'est ça, Pascal.
D'accord. Didier?
Oui, et je crois que des fois, certains nous écoutent, mais ne saisissent pas le fond de nos analyses, des fois. Et c'est bien dommage, ça se transparaît des fois par les appels. Je comprends bien la frustration de M. Kodjo, qui nous appelait de Dagueux, je crois.
Oui.
Mais il n'a peut-être pas écouté quand je disais, par exemple, que une constitution ne devrait pas être querellée. Ça, c'est la réalité de ce que nous avons aujourd'hui au Togo. Et ça aussi, on l'a dit. On l'a analysé. En réalité, une constitution ne devait pas être querellée. On ne devait pas avoir une bataille autour d'une constitution parce que j'ai dit que si ça avait, les bases avaient été posées dans les normes, et vous êtes mes témoins à ce studio, qu'on ne devrait pas assister à ça. J'ai dit tout ça aussi. Et ça, c'est le risque que le journaliste prend en disant un certain nombre de choses dans un contexte aussi sensible. Et ça, je ne sais pas s'il veut qu'on aille à ça. On aille loin, ben ça, aller loin, ça revient aux acteurs politiques de le faire. Ce que le journaliste peut faire, c'est de voir les réalités en face et de les analyser. Nous l'avons fait. Et sur la question de la médiation, il a dit quelle médiation Fonia Singbe a réussi. Ça aussi, il faut quand même qu'on soit honnête avec nous-mêmes. S'il a échoué dans la facilitation entre la CDAO et l'AES, il faut quand même reconnaître que la médiation pour la libération des 49 militaires ivoiriens au Mali, incarcérés au Mali comme des mercenaires, ça a été une réussite. Il faut également être honnête de reconnaître que la libération, il y a peu, vers la fin de l'année 2024, des gendarmes ivoiriens arrêtés et détenus au Burkina Faso, a été également une réussite. Et on peut multiplier des exemples comme ça. Donc, une réussite, peut-être que lui ne veut pas qu'on le mette au crédit de M. Fonia Singbe, on dira de la diplomatie togolaise, mais la diplomatie est conduite sous la coupole d'un chef de qui est M. Fonia Singbe aujourd'hui. Moi, je veux le bien de mon pays, et si quelque chose est bien, reconnaissons-le et disons-le, mais si on peut améliorer des choses, comme sur, comme on l'a dit, sur la constitution, d'autres choses. Si on peut améliorer, on l'a dit, sur la décentralisation, les mairies, on a pris le risque de dire certaines choses ici. Si on peut améliorer, nous allons le dire aussi. Mais ce n'est pas à nous de venir à la place de certains le combat qui devrait être le leur. Parce qu'eux se sont autoproclamés acteurs politiques, par exemple. Nous avons choisi d'être journalistes et nous le serons.
D'accord. Gosson ?
Oui. Juste revenir sur le dernier auditeur qui disait... Il s'est rendu dans une mairie pour légaliser un dossier. On lui ferait comprendre que le maire est en déplacement et qu'il n'a qu'à revenir après. Je veux me permettre de douter, en ce sens que
dans
pour une légalisation.
Les mairies, voilà, je ne sais pas de quel type de dossier il s'agit, mais pour ce qui est des légalisations, ce n'est même pas souvent le maire
tout à fait
qui signe. Il a délégué sa signature à d'autres conseils, d'autres collaborateurs. Donc, il doit être plus précis dans ce qui le fâche et qui vous voudra bien dénoncer. J'ai particulièrement aimé l'intervention de celui-là, dont j'ignore le nom, qui disait que, je reprends un peu, quand on souffre de légitimité, on cherche les médiations pour se faire mieux voir à l'international. Ça veut dire beaucoup de choses, même si on n'ose pas se l'avouer. Parce que c'est ça. Quand, par exemple, la Constitution, si elle avait été adoptée dans les normes, elle ne souffrirait pas de sensibilisation et autres. Mais c'est parce que, ça c'est un proche à moi qui la nomme ainsi, moi aussi je vais utiliser son terme, la Constitution nocturne.
D'accord.
Elle a été adoptée notamment.
Merci, Gosson Ketomania, vous êtes du journal Liberté. Merci d'être passé dans cette émission. Jacques Diakoti, merci d'être passé dans cette émission, journaliste et analyste politique. Et Didier Assogba, merci d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez aussi appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Michel Tomega qui est à la mise en onde. Jérôme Dakouta à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.